Bonsoir Bruno Lina.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de virologie au CHU de Lyon, également membre du conseil scientifique, le Covid-19 conseil scientifique que le gouvernement consulte régulièrement. Par exemple, sur la question cruciale du déconfinement, étiez-vous de ceux, Bruno Lina, qui avec celui qui préside ce comité scientifique, le professeur Delfraissy, plaidait pour que les plus de 65 ans restent chez eux, confinés, plus longtemps que les autres?
Alors sur ce sujet-là, on est encore en train de réfléchir. Hein. Vous savez que depuis plusieurs jours, on travaille sur un document qui est un très gros document avec énormément d'informations, de propositions, de recommandations. Il n'est pas abouti ce document. On discutait dessus encore ce matin. On doit rediscuter dessus encore demain. Donc la position finale de l'ensemble de la décision que nous prendront et pas tout à fait arrêté. On a un certain nombre de pistes qui ont été évoquées. On essaye vraiment de pouvoir éclairer au mieux les différentes possibilités en pesant le pour et le contre de façon à ce que derrière le choix puisse être fait dans les meilleures conditions possibles.
Choix politique en vertu de vos recommandations scientifiques. Essayez de nous éclairer, Bruno Lina, sur une situation générale. Comment on peut recommander une interdiction collective générale alors que on sait il y a quand même autant de santé que d'individus. Est-ce qu'à partir de 65 ans, quelle que soit la personne en face de nous qui peut avoir une santé d'or, on est de fait plus vulnérable face à un virus? Est-ce que c'est acté et fondé?
Alors, on a appris quand même beaucoup de choses hein, depuis l'émergence de ce virus, à la fois par notre expérience française, mais aussi par l'expérience de l'étranger. Oui. La première chose que l'on a appris assez rapidement, c'est que le confinement, ça marche. Le confinement, ça permet de réduire la circulation du virus quand c'est associé avec un renforcement des mesures barrières, des mesures d'hygiène. On voit que quand on se contacte moins, quand on a cet enfermement, parce que c'est quand même ressenti comme cela, on voit que le fait de moins interagir avec tout le monde baisse la transmission d'un virus à transmission qui est lié avec des contacts.
Oui, et donc, ça se note dans les hôpitaux, un nombre de personnes hospitalisées en baisse depuis 3 jours, oui.
Exactement. Donc ça marche. Donc c'est pas quelque chose qui est une contrainte qui n'a pas d'effet. Elle a un effet et c'est le meilleur traitement qu'on a. On peut pas rester comme ça. Il va falloir que ça évolue et il est légitime de dire à un moment donné qu'il faut qu'on cesse de ce confinement et qu'il faut qu'on passe à une autre phase. Et cette autre phase, c'est ce que vous appelez le déconfinement, qui est en fait la levée progressive du confinement. Oui. Il faut qu'on la fasse de façon raisonnable et il faut qu'elle continue à porter ses fruits, à la fois en termes de maîtrise de l'épidémie et de protection des plus fragiles. Or, c'est le deuxième volet de l'expérience que l'on a. On sait que parmi les formes les plus graves, parmi les formes qui vont en réanimation, parmi les décès, clairement, il y a un certain nombre de critères qui font qu'on est plus à risque lorsqu'on a plus de 65 ans, plus de 70 ans, plus de 80 ans. On voit vraiment monter le risque de séjour en réanimation et derrière de décès de façon extrêmement importante. Chez les plus de 80 ans, si une personne rentre à l'hôpital, elle a une chance sur 6, entre guillemets, ou un risque sur 6, de décéder. Donc on voit que c'est pas anodin. Donc dans ces conditions, il est légitime aussi, on doit protéger ces personnes fragiles et on doit les protéger à la fois collectivement et individuellement. Mais ça ne signifie pas de les enfermer. Il va falloir que, malgré tout, l'ensemble de ces personnes, parfois très âgées, ne subissent pas les contre-coups du confinement. Et tout l'équilibre à trouver est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à les protéger, c'est-à-dire qu'il doit forcément y avoir une action collective de tout le monde pour protéger les plus fragiles. Les plus fragiles étant ceux que l'on individualise par leur âge, par leur pathologie chronique, etc. Et qu'en même temps, ces personnes-là aient la notion très claire qu'elles sont à risque et qu'elles elles-mêmes aient des mesures d'évitement.
C'est ce que j'allais vous dire. Il faut faire confiance aussi à sa propre personne, à sa fameuse autogestion dont on en parlait, savoir si l'on est ou pas vulnérable et faire confiance peut-être, et j'aimerais que vous insistiez sur ce point-là, à son médecin traitant qui ici sera très important. Quel risque moi je cours si je m'expose? Comment je me protège au mieux en fonction des pathologies, docteur, que vous connaissez? On pourra avoir vraiment ce dialogue qui sera là pour le coup très très intéressant.
Mais vous avez parfaitement raison. En fait, le médecin traitant est la personne qui connaît mieux le patient, la personne personne. Et si cette personne va voir son médecin traitant qui et lui dit, écoutez, moi, j'ai certes 70 ans, mais Jean-François Delprécy a donné son âge, donc je peux lui donner, il a 72 ans. J'imagine que si il va voir son médecin traitant pour savoir s'il a le droit de continuer à faire ce qu'il fait, je pense qu'on va lui dire oui, et ce serait une bonne chose collectivement. Donc cet exemple peut servir à montrer que on n'est pas enfermé dans une contrainte de confinement extrême parce que simplement on a cet âge. Et puis peut-être que certaines personnes fragiles qui sont un peu plus jeunes devraient le faire, alors que d'autres un peu plus âgées, eh bien on pourrait admettre qu'elles ne suivent pas un confinement très strict. Il va falloir passer à quelque chose qui sera pas forcément à la carte, mais en tout cas très individualisé.
Oui, on entend tout à fait ce que vous dites, professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique Covid-19. Vous parliez des effets très notables du confinement. Malheureusement, on note aussi beaucoup de petits arrangements avec les règles qui se multiplient. Il faut tenir encore, c'est ce que vous dites à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette date du 11 mai? Pourquoi cette date, pour certains qui est apparue tombée du ciel, a son sens et son importance?
On est dans une dynamique. Actuellement, jusqu'à il y a la semaine dernière, je disais qu'on avait une croissance progressive du nombre de cas, puis après on a un effet décrétage de ce pic épidémique et on est en phase de décroissance. Mais cette phase de décroissance, on la voit de façon assez significative pour le nombre de cas et pas encore en réanimation. En réanimation, qui est vraiment le point final, qui est la zone d'inertie la plus importante, on a encore plus de 6500 personnes en réanimation, en sachant que normalement la capacité maximum c'est 500. C'est 5000, pardon. Donc on est au-delà de nos capacités maximum. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse retomber ce chiffre en dessous d'un certain seuil qui permette aux équipes de réanimation de reprendre leur souffle, de remettre l'hôpital en marche aussi, parce que l'hôpital et l'ensemble de la médecine doivent se remettre en marche pour qu'on reprenne en charge des patients qu'on ne voit plus. Il y a aujourd'hui des délais sur la prise en charge d'un certain nombre de pathologies cancéreuses, de pathologies cardiaques, de choses qu'il faut que l'on reprenne en charge comme il faut. Il faut pour cela que l'hôpital retrouve et la santé d'une manière générale retrouve un niveau de base. Oui. Et ce niveau de base, lorsqu'on regarde la dynamique de l'épidémie, les modèles que l'on peut avoir, il nous dit que c'est probablement, très certainement, à la milieu du mois de mai qu'on va le retrouver. Et donc c'est probablement la fenêtre de tir que l'on a la plus précoce pour permettre de reprendre une activité collective sortie de confinement le plus confortablement possible, à la fois en termes de risque de transmission, parce que le nombre de virus qui circulera à ce moment-là sera relativement faible, de reprise en main de notre vie, je dirais, en lien avec la santé, et puis derrière la reprise d'un certain nombre de possibilités de relations bien sociales. Oui. Et voilà, on accumule tout ça, à un moment donné, il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre à peu près à ce moment-là. Il va falloir être très vigilant, parce qu'il ne faut pas baisser la garde à ce moment-là. Ça veut dire que les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale, les mesures d'hygiène qu'on a pris l'habitude d'appliquer, là, il va falloir continuer à les utiliser.
J'ai une dernière question, on en aurait beaucoup plus pour vous Bruno Lina, mais vous disiez il y a quelques jours qu'il serait possible d'ici la mi-avril, et nous y sommes, de faire 50 000 tests par jour en France. Est-ce que les moyens y sont aussi? Et qui sont les Français qui pourront être testés en priorité? On pense aux enfants ou aux parents d'enfants qui pourraient progressivement reprendre l'école à partir du 11 mai.
Alors, la première réponse à votre question, actuellement en France, il se fait chaque jour environ 35 000 tests.
Bien.
Donc, 35 000 en ce moment, aujourd'hui. Donc, on est en cours d'installation d'un certain nombre de plateformes de PCR, donc qui sont ces tests rapides qui permettent d'avoir le diagnostic de la présence du virus. Hein. Ce n'est pas les tests sérologiques, c'est vraiment la détection du virus. On est en train d'installer une vingtaine de plateformes de PCR à très haut débit, qui vont rajouter 50 000 tests supplémentaires par jour. Et ces plateformes seront fonctionnelles à peu près à la mi-mai aussi. Donc vous voyez, c'est une espèce de conjoncton des planètes, le mi-mai. Et donc on sera en capacité à ce moment-là de faire de l'ordre de 85 à 90 000 tests par jour.
Pour des personnes déjà porteuses de symptômes, si je vous entends bien.
C'est des personnes qui débutent leurs symptômes que l'on teste actuellement. On est en train de basculer vers une autre philosophie qui est de dire on va tester tout le monde, Là, pour l'instant, on testait essentiellement ceux qui vont vers l'hôpital. Mais l'idée serait peut-être de tester de façon beaucoup plus large, comme c'est fait dans d'autres pays, de façon à pouvoir identifier très tôt les infectés et de basculer vers un confinement orienté. C'est-à-dire que ces malades-là, même s'ils ne sont pas graves, ils sont confinés chez eux. Et ça évitera les chaînes de transmission. Et on va essayer de capter aussi la possibilité de voir les personnes qui étaient au contact de ces malades qui sont peut-être en phase d'incubation, en leur disant « attention, vous avez été en contact de quelqu'un qui est confirmé, vous allez peut-être développer la maladie d'ici 3-4 jours, restez chez vous et on va mettre en place une surveillance pour voir si effectivement vous êtes infecté ou pas ». Donc c'est un petit peu dans cette philosophie-là qu'on passe, ce qui veut dire qu'on va tester beaucoup et on va surveiller beaucoup.
Merci pour toutes ces informations et précisions sur l'antenne d'Europe 1, professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon, membre du conseil scientifique Covid-19. Et à bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup.